pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il s'appelait Tom Magliozzi, il est mort il y a 10 jours. Avec son frère Ray, il a animé pendant 37 ans une des émissions de radio les plus fameuses d'Amérique, Car Talk, un talk show entièrement consacré à la voiture et diffusé sur la radio nationale américaine.
Hello and welcome to Car Talk on National Public Radio with us, Click and Clack, the Tappet Brothers. And we're broadcasting this week from the Green Room. Well, this is a bad taste.
Tom Magliozzi répondait à toutes les questions d'auditeurs concernant les voitures. Il donnait des conseils en mécanique, des bons tuyaux, les tendances du moment. Parfois, il lançait un thème de discussion plus général, plus philosophique, autour de la voiture. Il faisait beaucoup de blagues aussi avec son frère, qui égayait son émission. De nombreuses personnes écoutaient d'ailleurs le car show, plus pour les blagues que pour réparer leur voiture. Tom était pourtant diplômé du célébrissime MIT, le Massachusetts Institute of Technology de Boston. Il avait travaillé dans le marketing. Puis après avoir miraculeusement réchappé d'un accident de voiture avec un tracteur, il s'était lancé dans le porte-à-porte. Enfin, il est entré à la radio. L'Amérique est aujourd'hui encore le pays du monde où il y a le plus de voitures par habitant. En France, je doute qu'un programme spécifiquement consacré aux voitures puisse un jour exister. Je ne sais pas s'il faut regretter, d'ailleurs, ou pas. Mais nous avions tout de même envie, au pied sur terre, d'aborder à notre façon et à la mesure d'un pays qui compte peu de voitures par habitant, la question de ce véhicule à quatre roues dit de tourisme. Aujourd'hui donc, ce sont des histoires de voitures, de pôles d'échappement, de pollution, de permis, de roues, de stations essence, de mécanique, d'autostop, d'air de repos et d'accidents. C'est le début d'une série de Delphine Dilly dont je vous propose aujourd'hui de réécouter le premier épisode. Ça s'appelle Cars et c'est dans les pieds sur terre jusqu'à 14h sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Après ce panneau, je vais rencontrer un virage dangereux. À droite, réponse A, ou à gauche, réponse B.
L'année dernière, en mars, j'ai déménagé loin de Paris en banlieue. Donc j'avais beau avoir peur et pas très envie, mais je n'avais plus le choix, quoi. Je devais passer mon permis. Mon père et mes amis m'ont même mis la pression, ils me l'ont offert. Alors je me suis inscrite à l'auto-école de ma petite ville.
Bonjour.
Et j'ai commencé mes cours de code où j'étais de loin la plus vieille.
T'as fait combien ce soir par contre ?
18 fautes.
18, non. Ensuite, tu mets,
donc pour me plonger à fond dans ce permis et mettre à profit cette galère, je me suis dit que je pourrais chercher des histoires autour de la route, du permis et des voitures.
Ok. Bon, merci, bonne soirée, au revoir.
J'ai bachoté mon code et au moment où je suis enfin passée de 18 à 6 fautes sur 40... Bah, j'ai rencontré Alexis.
Vous êtes prêts ? Nous commençons.
J'ai un parcours un peu atypique, dans le sens où j'ai arrêté mes études au bac. Bon, ça, c'est pas très original, mais j'ai raté mon bac. Et à 18 ans, je me suis mis à travailler. J'ai dû faire tous les boulots du monde. J'ai dû en faire, j'ai compté la dernière fois, 28, 29 différents. Et durant cette période, j'ai été en même temps toxicomane, je peux le dire, au crack, en majorité, mais tous les autres produits aussi. Et donc, effectivement, je me suis retrouvé un jour dans la rue, environ entre 9 et 12 mois. J'ai tout perdu, tout simplement pour avoir du fric, et en vendant mon lit, en vendant mes meubles, en vendant mes vêtements, mes CD, parce que j'avais plus rien et que je pouvais plus payer le loyer et que plus personne n'était derrière moi. Et donc, lorsque j'ai décidé d'en finir avec 10 ans de toxicomanie et de boulot sans diplôme, on va dire, je me suis retrouvé en Bretagne, une personne qui m'est très chère m'a hébergé, ma grand-mère. J'avais un pacte avec elle, parce qu'évidemment, plus aucune personne de ma famille voulait m'aider. Et donc ce pacte, c'était donc à la moindre défaillance, je jartais. Hein. Voilà, c'était terminé. Pendant 6 mois, je me suis reconstruit, en tous les cas physiquement et un petit peu psychologiquement, parce que ça a mis pas mal de temps, on va dire presque 3 ans. Bon, ma grand-mère avait quand même à l'époque 80 ans, c'est quand même assez vieux pour héberger un jeune homme assez violent, cassé, perdu, dépressif. Et donc voilà, et j'ai rencontré durant ces deux années une fille de mon âge et qui était monitrice. J'avais jamais rencontré de moniteur en dehors de mon permis de conduire. J'ai toujours trouvé que c'était un métier improbable, que le personnage, le moniteur lui-même était une personne assez improbable. En tous les cas, ça serait improbable que moi je devienne moniteur parce que j'associais le moniteur ouais, à un mec de la campagne, toujours. Même en ville, même à Paris. Pourtant, j'en ai eu un dans le 20e à Paris, assez sympathique. Il puait de la gueule, mais à part ça, enfin voilà. Et donc, j'avais fait pas mal de métiers en lien avec la route. J'ai été livreur en voiture ou en camion. Et puis, j'ai fait du scooter, de la mobylette, de la moto. Je suis passé par toutes les cylindrées en tant que coursier, voilà, dans Paris. Et donc, je me suis dit, bah tiens, ce boulot, c'est lié à la route. Moi, j'adore conduire, je connais bien la route. Et puis, c'est possible de faire ce boulot à Paris. Alors, il y a tout un parcours. Hein. J'avais une assistante sociale. J'étais bien sûr à la NPE. Je touchais pas les ACEDIC. Donc, comme j'avais la chance d'avoir une assistante sociale qui était assez volontaire, et ben voilà, j'ai réussi à avoir un financement pour pouvoir me payer cette formation.
Je peux aller tout droit si je conduis. Une camionnette ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
La première peur, c'est la peur de l'échec, évidemment, puisque quand on a un parcours comme le mien, on se sent merdique.
Non. Réponse D.
La première peur était donc l'échec, et puis la seconde, c'était le contact avec les autres, parce que j'étais devenu pas associable, mais j'avais beaucoup de mal, j'avais peur de parler aux gens, j'avais pas envie, j'avais un rapport avec les autres assez noir. Voilà. Et donc, j'ai failli plusieurs fois me barrer et partir de cette formation. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, il y a une partie qui s'appelle l'admissibilité, qui est une première partie où on peut échouer, où on regarde si vous êtes capable de synthétiser des textes assez simplement. Moi, j'avais une orthographe assez mauvaise, alors que j'avais quand même un papa écrivain. En revanche, j'avais une bonne syntaxe, une très bonne syntaxe. Et donc voilà, et ensuite vous avez une autre partie, mais c'est plutôt de pratique. En gros, j'ai dû donner deux cours de 20 minutes à ce qu'on appelle des élèves cobayes. Et donc vous êtes lâché un peu dans votre métier, qui est censé être le monde de la pédagogie de la route. Et donc j'ai réussi, je crois que j'ai eu 12 de moyenne, alors que j'avais jamais eu de diplôme. J'ai même pas eu mon brevet des collèges, donc voilà. Le seul diplôme que j'ai eu, c'est mon permis de conduire. Le jour de l'examen, tu poses vraiment la question, tu te retournes, tu auras le moniteur derrière qui t'accompagne, l'inspecteur à ma place, tu leur dis est-ce que tout le monde a sa ceinture. Certains inspecteurs, en te voyant toucher à tout, ils vont partir avec un bon a priori. Tu gagnes des points, d'accord? Donc après 2 ans en Bretagne, j'étais revenu vivre à Paris en octobre 2008. Et là, j'ai donc eu un entretien avec un monsieur, patron de l'auto-école. Un jour, dans un restaurant, à midi, il était habillé, c'est assez drôle, il était habillé avec un manteau de fourrure en octobre, avec un catogan, c'était un grand black. Il était très, très hautain, le narcissisme dans toute sa splendeur et la stupidité surtout. Mais bon, comme j'étais encore assez fragile, je savais pas sur quel pied danser. Et ensuite, il m'a dit de revenir quelques jours après pour venir chercher ma voiture à l'auto-école. Et alors là, j'arrive à l'auto-école. Je m'étais bien habillé, j'avais mis ma petite veste, je m'étais racheté une petite tenue avant de me remettre à travailler. Et voilà. Et en arrivant dans l'auto-école pour aller chercher cette voiture, j'avais pris ma pochette, mes cours avec moi. Je voulais tout installer pour le commencement, c'est-à-dire le lundi, 2 jours après. Et c'est une monitrice âgée de 60 ans qui m'accueille, blonde platine, avec un manteau de fourrure elle aussi. Elle s'appelait Gigi, on l'appelait Gigi. Et là, quand son regard tombe sur moi, elle me dit « Ah, mais t'es le nouveau moniteur. Bon, bah, je vais te donner ta voiture. Enfin, d'abord, on va aller faire un tour sur le centre d'examen. Mais qu'est-ce que t'as dans les mains, là ? Une pochette ? C'est tes cours ? Non, c'est pas tes cours, quand même. » Elle me dit « Moniteur, les lunettes de soleil, la direction droite-gauche, et quand t'en as marre, dans les bouchons, à Saint-Michel. » Voilà, comme ça, c'était clair. C'était drôle. Voilà, mais je savais bien que j'allais pas pouvoir coller à cette image-là. Ça, c'était certain. Parce que c'est pas ma nature et c'est pas mes principes. Et bon, alors, un soir, il faut dire qu'on faisait entre 12 et 13 heures de boulot par jour. On travaillait jusqu'à 20 heures, on commençait à 7 heures et de temps en temps, on prenait une pause pour le déjeuner. Mais c'est, les journées sont longues, hein, parce que ça fait 12 heures, 13 heures dans une voiture, c'est énorme. Et donc là, elle sortait d'un cours, elle rentrait dans le bureau, elle regardait son planning, toujours cette fameuse Gigi, et elle disait « Diallo, Fatoumata, bon ben Saint-Michel, dans les bouchons. » Voilà. On va tourner à droite, donc tu regardes ton rétro, tu clignotes, ok, tu restes bien droite parce qu'on n'est pas un camion. Et dès que l'avant du véhicule arrive au centre de la voie, eh ben tu te tournes, vas-y, même si elle est piétonne, je m'arrêterai avant. Regarde là-bas. Je suis resté 5-6 mois dans cette auto-école. Je me suis engueulé avec le patron, il me semble, pour une question de salaire et de compétences, parce que j'avais bien compris de quelle manière on travaillait, et je voyais bien que je travaillais normalement et que certains ne travaillaient pas. Et donc, j'avais été embauché à un salaire bien plus bas que ma collègue. Oui, bien plus bas. Et donc voilà, et donc je suis parti de l'auto-école, et ce que j'ai appris plus tard, puisque j'ai été cité comme témoin, quelques semaines ou un mois plus tard, les flics ont débarqué pour escroquerie. J'ai entendu un chiffre comme 400 escroqueries, donc 400 inscriptions. Le patron qui n'avait pas le droit d'être patron, parce qu'il avait, paraît-il, vendu des faux permis pendant des années, des magouilles avec des inspecteurs, avait mis donc un homme de paille, son ami, il s'était engueulé, donc il avait changé la direction de l'auto-école et avait mis la secrétaire, mais comme il n'y avait pas eu de confirmation de la préfecture, bah, toutes les inscriptions nouvelles étaient considérées comme caduques.
Donc ça veut dire qu'il y avait 400 personnes, leur permis n'était pas valable.
Et n'ont pas réussi d'ailleurs à récupérer leur argent. Voilà. On va partir directement dans la voie de bus. Tu regardes ton rétro extérieur gauche.
Le temps a passé et quand Alexis a trouvé une autre auto-école, les élèves ont commencé à se l'arracher.
Ok, c'est parti.
Sa secrétaire se plaint même de plus avoir de place sur son planning.
Allez-y, monsieur. Monsieur, allez-y. Je vous en prie, on ne peut pas tourner avec vous de toute manière. Voilà. Pas plus, pas plus. Parce que si tu tournes tout le volant, tu vas tourner trop. Et on redresse. Ouais, c'est parfait ça. C'est impeccable. Hein. Parfait. Un jour, j'étais avec un jeune de cité, je l'avais passé le permis et je l'avais pour sa dernière leçon de 3 heures. Et donc, on part en leçon, je lui réexplique l'installation parce qu'il s'installe comme un saligo et que l'installation s'est notée sur 2 points. Et on part, mais il est très sérieux, il écoute, il prend toutes les informations en compte. On voit qu'il n'est pas là pour rigoler, il veut le permis et voilà, il n'est pas là pour se faire materner 15 fois. Il entend un truc et il le fait, et dès qu'il ne comprend pas, il demande. Il roule assez bien, on voit que c'est un jeune qui a des facilités. Et puis, je lui donne des informations, mais sans être trop précis non plus. On s'arrête pas, je fais pas de schéma. Bon, on roule, et au bout de 25 minutes, 30 minutes, on est en ligne droite, et le long des quais, je m'en souviens encore. Et là, il lâche le volant tout en roulant, et il tape fort sur les rebords du volant, et il me dit, mais c'est ça que je veux, c'est ça, c'est un cours. Mais pourquoi ils me donnent pas de cours, les autres? Ça, c'est un moniteur, ça, c'est vraiment... Toi, tu fais ton boulot. Et là, je lui dis, oh, mais calme-toi. Non, c'est vraiment gentil ce que tu dis, mais calme-toi. Et puis là, voilà, il m'a expliqué, moi, je lui ai expliqué ce que je ressentais aussi. Résultat des courses, il a eu son permis, et il est repassé, il avait mon numéro de téléphone, il m'a appelé pour me remercier, il m'a envoyé un long message, un long SMS d'amour. Et un jour, il m'appelle, donc une semaine, je pense, après avoir eu le permis, et il m'a demandé mon adresse, et il est passé m'apporter un petit bout de shit. Mais je fume pas de shit, donc voilà, pour me remercier. C'est plutôt mignon. Voilà. Alors, le prochain changement de direction est assez difficile. On va tourner à droite tout au bout, d'accord? Voilà, mets le clignotant dans la foulée. Allez, enchaîne avec un chevauchement. Ouais, vas-y, passe par-dessus, voilà. Pas plus, regarde à gauche, on est prioritaire.
Il y a un vélo.
Ouais, mais on est prioritaire, hein. Faut qu'il apprenne le code de la route, lui aussi. Et on redresse les roues. Ouais, c'est bien. Allez, ça commence à venir. Impeccable. Okay. C'est fou d'être tombé dans ce métier qui, en fait, est un vrai lien social, alors que moi, j'étais très, très seul, un vrai solitaire, mais par la force des choses, j'avais jamais décidé de l'être. Je trouvais ça plutôt angoissant. Et ce métier m'a relié aux gens d'une façon impressionnante. Et j'aurais pu choisir 10 autres métiers. Et c'est celui-là que j'ai choisi par hasard ou grâce à une rencontre. Et c'est, je pense qu'il n'y a, pas un métier qui aurait pu plus me relier aux autres. Et donc, quand on est toxico, on a une image de soi merdique. On est maigre, on est moche, on est mauvais, on est violent, on est fragile, on est triste, on est tout ce qui est dégueu. Et donc, à partir du moment où vous vous retrouvez dans un domaine dans lequel vous êtes, en tous les cas, très apprécié, alors que vous étiez très déprécié avant par vous-même et par les autres, eh ben, ça regonfle votre image et ça vous soigne. Non seulement j'avais réussi à me reconstruire, je prenais plus de drogue, j'avais repris du poids, j'avais retrouvé ma famille, et puis ben, je me retrouvais à être apprécié dans un métier avec un diplôme alors que j'avais jamais eu de diplôme. Pendant à peu près 5 ans, je me suis regardé devant la glace presque tous les matins. Très très souvent, je me disais ouais, « je suis vraiment heureux ». C'était une vraie rencontre. C'était même pas retrouver ces sensations, c'était une vraie rencontre parce que j'avais jamais vécu une vie d'adulte bien dans mon corps, bien dans ma tête. De mes 18 ans à mes, je crois, mes 27 ans, je me souviens même plus de ce qui s'est passé. J'étais pas là, j'étais pas présent. Donc il y a plein de sensations que j'avais pas vécues. Je suis vraiment heureux aujourd'hui, voilà, après un parcours comme ça. C'est aussi simple que ça.
France Culture, les pieds sur terre.
Hop, voilà.
La deuxième histoire de route, c'est celle de Jonathan.
Contenu vidéo.
Il a 20 ans et il étudie les multimédias et l'informatique à Meaux.
C'était l'anniversaire de 18 ans d'un de mes meilleurs amis, donc il s'appelait Quentin. Ça faisait à peu près 6 ou 7 mois qu'on s'était pas vu, donc c'était vraiment important pour moi d'aller à cette soirée d'anniversaire. C'était en mars 2014. J'avais énormément de travail à rendre pour le lundi, alors j'ai décidé de faire tout mon travail le vendredi soir, et j'ai fait quasiment une nuit blanche. Enfin, j'ai fait une nuit blanche. Et j'étais exténué, j'étais fatigué. J'ai décidé d'aller à cette soirée quand même. Donc, en faire une deuxième de suite, ça m'a pas vraiment réussi, quoi. Je suis venu en voiture. Ça a commencé vers 20h. On était entre 10 et 15 personnes, quelque chose comme ça. C'était assez tranquille, c'était notre groupe de potes, on est toujours les mêmes groupes, on s'entend très bien. On n'avait pas prévu de faire une beuverie ni une grosse fête, mais on avait quand même tous prévu de dormir sur place. Et j'avais ramené non seulement un sac de couchage, mais aussi mon matelas. Mon ami en question, chez qui j'étais, était en séparation avec sa copine, et en cours de soirée, sa copine se sentait pas bien. Elle est allée aux toilettes et moi et un autre ami, Cyprien, on est allé la consoler, rester avec elle un moment parce qu'on ne pouvait pas la laisser toute seule dans cet état. Donc on s'est occupé d'elle pendant que la soirée continuait. On a donc eu l'impression d'avoir raté une partie de la fête. Vers 2-3 heures, pendant que les autres allaient se coucher, on était un peu frustrés d'avoir manqué cette fin de soirée. Donc on a décidé de rester tous les deux, Cyprien et moi, discuter un peu. Malheureusement, on faisait du bruit, on dérangeait ceux qui essayaient de dormir. Donc on a décidé de sortir. Mais étant donné qu'on était un peu pompettes, on a pris avec nous des provisions. Donc on a fait un espèce de mélange dégueu, on a mis tous les restes de fond de bouteille dans un saladier qui était censé être un saladier de ponche à la base, et c'était drôle, on a même mis les cacahuètes et les chips dans le saladier, c'était vraiment dégueu. Du coup on est sorti. Étant donné qu'en mars il fait pas très très chaud, au bout de 2 heures à discuter quand même, on s'est un peu refroidi au bout d'un moment, et évidemment on avait un peu consommé en discutant, on était un peu dans un état second, plus tout à fait très lucide. Donc on a décidé de se réchauffer un peu dans la voiture, mais avec un petit peu de musique. Et pour mettre la musique, il fallait mettre le contact. Par réflexe, j'ai mis le contact, j'ai même pas allumé la musique, j'ai démarré, j'ai commencé à avancer. Je me disais qu'il fallait que je m'arrête, mais comme j'étais engagé, que c'était pas possible, j'avançais, et puis c'est tout. Je savais même pas où j'allais. Au bout de la ligne droite, il y avait un rond-point avec un virage. J'ai eu un moment d'absence. Je pense que je me suis endormi, en fait. Le premier choc, les deux roues avant ont frappé le trottoir et les espèces de blocs de béton qui sont au bord du trottoir. J'ai pris en choc frontal un arbre. Le premier s'est déraciné. J'ai eu un moment de panique. J'ai essayé un peu de tourner ou de freiner, mais il n'y avait rien à faire. Et puis avec l'élan, on a continué avec encore assez de vitesse pour frapper un deuxième arbre sur le côté du véhicule, ce qui a fait que le véhicule est parti en tonneau, en fait. Je crois qu'on a touché un troisième arbre et on a atterri sur un panneau de l'autre côté de la route, en fait. Et donc on est retombé à l'endroit sur les quatre roues, enfin ce qu'il en restait. Là, moi, j'étais très très lucide pour le coup. Et quand j'ai réalisé immédiatement ce qui s'était passé, j'ai pensé tout de suite, putain, j'ai fait n'importe quoi là. Putain, on peut pas retourner en arrière. Dans le noir, on voyait pas grand chose. Et je crois qu'il y avait quand même pas mal de sang. Alors j'ai eu peur, j'ai regardé mon ami qui était inconscient. Alors là, j'en ai pas large. Je l'ai appelé, j'ai crié même. Je faisais que de crier. Quand il a repris connaissance, je lui ai dit de pas bouger. Parce que on m'a toujours dit que quelqu'un de blessé, faut pas le manipuler, pas le bouger. Donc je lui ai dit de pas bouger. Mais lui, il voulait absolument sortir parce qu'il y avait de la fumée qui sortait du capot et il avait peur. Il me lançait des insultes en me disant « Non, je sors tout de suite, hors de question que je reste une seconde de plus là-dedans. » Dans un amas de débris, de bouts de verre un peu partout, avec les deux gros airbags qui commençaient à se dégonfler, on n'avait plus nos repères, j'arrivais même pas à trouver la poignée de la porte. On a vraiment galéré à se détacher et à ouvrir la porte, puis qu'on était tous les deux à l'extérieur, j'ai fait un peu le tour et j'étais plutôt à ausculter le véhicule tout en ayant l'espoir de pouvoir le refaire démarrer, mais c'était complètement ridicule. Il n'y avait même plus de roues, mais je me disais, allez, quelques réparations par-ci, par-là, on verra pas, non. Mais non, enfin, j'étais en train de réaliser, en fait. Ça m'a énervé, j'ai donné des grands coups de pied dans la porte, en me disant, mais putain, comment je vais faire? En plus, c'est même pas ma voiture, enfin, qu'est-ce que je fais? J'ai tout saccagé, là, j'ai fait n'importe quoi. Donc, c'était vers à peu près 6 heures du matin. J'ai entrepris de marcher un peu à la rencontre de quelqu'un pour lui demander d'appeler les secours. Après, on était en attente à l'hôpital. Je pouvais pas bouger. Je savais pas où était mon ami. Alors, à un moment, j'ai crié son prénom. Et j'ai entendu de loin « Ouais, John, t'inquiète pas, tout va bien. » Donc on a parlé un peu en criant à travers l'hôpital. Le problème, c'est que avec tout l'alcool que j'avais bu, j'avais une sacrée envie de pisser. Ça faisait depuis 2h du matin, il était à peu près 7h. Je me suis dit, au point où j'en suis, pourquoi me faire souffrir plus? Là vraiment, j'en pouvais plus. Et j'ai pissé. Après, quand les infirmières sont venues, je me suis engagé à nettoyer, mais le problème, c'est que quand l'adrénaline est redescendue, je pouvais plus bouger, en fait. J'avais mal au dos, donc j'ai rien nettoyé. Mais voilà, je culpabilisais aussi pour ça. Enfin, je suis resté 3 jours à l'hôpital, et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pas de séquelles. Quant à mon ami, il avait le nez qui était complètement éclaté, sa cheville était cassée, et son poignet. C'est une chance quand même. Je suis retourné en cours. J'ai essayé de justifier mon absence vis-à-vis de mes camarades. Et pour eux, j'étais un ouf. Et c'était plutôt valorisant. Je t'imaginais pas, toi, faire ça, surtout vis-à-vis de ton projet. Justement, au début de l'année scolaire, j'ai décidé de faire un projet universitaire sur le thème de la sécurité routière. J'ai toujours pensé qu'il y avait trop de morts sur la route à cause de l'alcool, et que la sécurité routière, c'était quelque chose d'utile comme projet, au lieu de m'orienter vers un projet de jeu vidéo ou de divertissement. J'ai visé quelque chose d'utile pour la société, et je me suis porté en tant que chef de projet avec une équipe, une agence d'élèves. On était 4, Le but du projet, concrètement, c'est de faire un site web sur lequel on poste des vidéos, des images, des illustrations, des affiches. On a même prévu de faire un concours de clips vidéo de sécurité routière proposé par la préfecture de police de Paris. Avec mes camarades, on s'est dit tout de suite, celui-là, on y participe et on le gagne. On a fait une vidéo d'à peine 40 secondes et c'est cette vidéo-là qu'on a présentée au concours de la préfecture. Juste après l'accident, elle a été primée coup de cœur du jury. C'est sûr que quand on a montré notre vidéo, il y avait une centaine de personnes. Vraiment, j'étais mal à l'aise avec les projecteurs, avec Michel Drucker, avec les micros, des gens que je connaissais pas, qui avaient voté pour notre vidéo. J'étais pas très à l'aise. Et puis surtout aussi le fait de recevoir un prix. Dans ma tête, je me disais que c'était ironique, mais ça, j'en ai pas parlé. Je voulais pas leur dire, je sais pas trop pourquoi, en fait. C'est comme une grosse bêtise. Comme un enfant qui casse un objet et au lieu de dire à ses parents, il cache les débris. C'est un peu ça. Les quelques mois qui ont suivi, on avait beau chercher sur internet ce que je risquais, ça faisait très très peur. Au niveau juridique, ce que je risquais, c'était la prison avec sursis, le casier judiciaire, la perte de mon permis, une amende jusqu'à 75 000 euros. Donc ça fait très très peur, surtout quand on sait que j'ai pas plus de 50 euros au total, donc voilà. J'arrêtais pas d'y penser sans arrêt. Je me disais, mais comment je vais faire pour payer ne serait-ce qu'une amende, même rembourser la voiture à mes parents? Et je paniquais beaucoup pour ça. Après, le procès a eu lieu le 9 septembre. Et le jour du procès, ça s'est passé à peu près comme j'imaginais, donc très intimidant. Comme dans les films, votre honneur, devant tout le monde, parce que c'est un tribunal public. L'avocat a joué la carte de la personnalité. M'a très bien défendu, j'étais choqué et au final j'ai eu énormément de chance. J'ai pas d'amende, pas de prison sursis, j'ai un casier judiciaire mais pas sur la page employeur et mon permis a été suspendu 4 mois. Après, je pensais jamais être capable de ça un jour, déjà ne serait-ce que de prendre la voiture alcoolisée, puisque pour moi le seul taux c'était zéro. Et c'est là que je me rends compte à quel point, en fait, c'est traître. Être quelqu'un de raisonnable ne suffit pas. On n'est plus la même personne du tout quand on boit.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Cars, le premier épisode d'une série de Delphine Dilly réalisée par Emmanuel Geoffroy. Merci à Jonathan, à François de l'auto-école de Villennes-sur-Seine, ainsi qu'à Alexis et Sandrine Chaperon, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Céline Autin, notre stagiaire. Merci également à François Connac qui s'est occupé de cette rediffusion d'une émission que vous avez déjà peut-être pu entendre le 6 novembre 2014.